Chapitre 6. On atteignait la fin de juillet et les préparatifs se faisaient à Runesto pour le mariage du marquis de Pinvalas et de Florita de Valserre. La cérémonie, d'ailleurs, devait être fort simple, car le moment n'était pas aux réjouissances. Florita et Armel se réservaient d'orner la chapelle, et toutes deux s'y rendaient parfois pour conférer ensemble à cet effet. Un après-midi, en sortant, elles trouvèrent Alain qui les cherchait. Il tenait une lettre à la main et dit, avec quelque animation, « Voyez donc ce que m'écrit mon cousin d'Above. Il paraît que cette misérable Elsa, dès avant la guerre, avait fait préparer dans les caves de Vanel, très vastes, je m'en souviens, des approvisionnements pour l'armée d'invasion. » Armel jeta une exclamation d'horreur. Florita, elle, tressaillit et dit d'un ton surpris, « Mais je le savais, je te l'ai appris, Alain. »« Jamais, ma chérie. »« Par exemple, alors comment se fait-il? Pourtant, je le savais, je suis certaine qu'on me l'a dit. » Alain lui prit le bras et se pencha vers elle. « Tu m'as appris un jour qu'Elsa était une Allemande, qu'elle ne s'appelait pas Offel. »« En effet, je ne me souviens plus du nom. Attends, Hilda, Hilda Strups. »« Qui te l'a dit, Florie ?»« Qui ?» Mais c'est ma tante. Ah, ta tante t'a fait des confidences. Oui, elle m'a dit beaucoup de choses, mais il y en a dont je ne me souviens plus. Cela me revient par moments. Et c'est ta tante aussi qui t'a dit ce que cette femme avait fait de Vanel? Oui, Elsa était une espionne allemande. Et Otto Mühlbach, lui aussi. Oh, Alain, il me semble que j'ai encore tant de choses à te dire. Peu à peu, tu t'en souviendras, ma petite bien-aimée. Ne te tourmente pas à ce sujet. Mais voilà ma pauvre grand-mère toute bouleversée de cette nouvelle que m'annonce mon cousin. Celle-ci ajoute que la coupable a disparu et que vraisemblablement l'affaire tombera dans l'eau. Quand on pense que cette femme portait le nom de Maurice et qu'elle soignait nos blessés. Armel demanda, mais lui, Maurice, a-t-il joué un rôle là-dedans? Rien autre chose que celui de Soliveau, le pauvre garçon. D'ailleurs, Dabove me dit bien que personne n'a de doute à ce sujet. On savait parmi leurs relations, tout aussi bien qu'aux alentours de Vanel, qu'il n'était qu'une patte molle entre les mains de sa femme. Où a-t-elle pu aller, cette misérable? Elle s'est probablement réfugiée en Suisse ou en Espagne, à moins qu'elle ne soit en France, cachée dans la demeure de quelque complice. Oui, c'est très possible. Florita, qui restait silencieuse, les yeux songeurs, dit en hésitant, « Elle est peut-être à Kerhéven. » Une même surprise apparut sur la physionomie du frère et de la sœur. Alain demanda vivement, « À Kerhéven? Qu'irait-elle faire là? Quelle idée as-tu, Florie? » « C'est vrai, je ne sais à quoi je pense. Mais ma tante m'a dit quelque chose sur Kerhéven, Alain, et je ne peux plus me rappeler ce que c'est. » Depuis le premier jour où M. Barwell avait visité la chapelle de Runesto, la jeune fille n'avait pas eu de nouvelles éclairs de mémoire. Mais chaque fois qu'elle apercevait Kerhéven, même de loin, elle y attachait longuement son regard qui prenait une expression un peu angoissée. Aujourd'hui, un nouveau coin du voile s'était écarté. Un peu après, en se promenant avec Alain dans le jardin, elle lui raconta l'histoire du faux Walter Offel qui tout à coup lui revenait à l'esprit. Et M. de Pinvalas apprit ainsi que la pseudo-Elsa était la cousine d'Otto et d'Ulrich Mühlbach. Mais ceci et sa tante le savaient-ils quand ma grand-mère a recueilli cette petite? Je crois que oui. Je ne me souviens pas bien de ce que m'a dit ma tante à ce sujet. D'ailleurs, elle m'a parlé de tout cela brièvement, car elle avait hâte de finir. Elle était déjà très mal à ce moment-là. Oui, je me souviens. C'était l'avant-veille de notre départ de Vanel. « Te rappelles-tu, Florie, comment nous sommes partis du château ?» Elle secoua la tête. « Non, pas du tout. Ni de la bonne Caroline Dussault qui nous a si bien guidés. Non, non. » Alain ne poussa pas plus loin ses interrogations ce jour-là. De plus en plus, il pensait que cette amnésie partielle disparaîtrait peu à peu et qu'il était inutile de fatiguer la jeune fille. Au dîner, ils trouvèrent Madame de Pinvalas un peu agitée. La vieille dame venait de lire dans un journal local qu'un vapeur anglais avait été torpillé l'avant-veille dans l'Atlantique en un point qui n'était pas très éloigné de cette partie de la côte. « Vois-tu, si ces pirates viennent faire des incursions par ici, » dit-elle à son petit-fils. Alain la rassura. Le sous-marin en question ne vagabonderait pas sans doute bien longtemps dans ces parages. En admettant qu'il ne fût pas mis à mal par un torpilleur allié, il serait obligé, pour se ravitailler, de regagner une de ses bases certainement éloignées. Armel fit observer. « Qui sait? Il y en a peut-être une sur un point de nos côtes. J'espère que non. » Florita, silencieuse, rêvait, le front un peu plissé. Son fiancé lui demanda « À quoi penses-tu ? » Elle parut sortir d'un songe. « Au sous-marin, je sais quelque chose à leur sujet. Mais qu'est-ce donc ? C'est bizarre. J'ai dans mon cerveau comme des souvenirs épars que je ne puis coordonner. » « Bah, laisse donc cela. Tu te fatigues la tête, chérie, tu as chaud. » Les doigts du jeune homme caressèrent la joue brûlante. « Après le dîner, nous ferons un tour dans le jardin. Cela te fera du bien. » Florita ne s'y opposa pas. Et un peu plus tard, les fiancés, aux bras l'un de l'autre, s'enfonçaient dans le jardin parfumé de la senteur des roses et des héliotropes. La nuit était claire, grâce à un croissant de lune brillant dans un ciel dégagé de nuages. Une brise légère venue de la mer rafraîchissait l'atmosphère que le soleil avait chauffée toute cette journée. Les jeunes gens avançaient lentement, en silence. Puis Florita leva les yeux sur Alain, dont le regard amoureux ne la quitta pas. « Te souviens-tu, ami, des promenades en mer au clair de lune que nous faisions autrefois? C'était délicieux. Eh bien, petite fleur, rien n'est plus facile que de te donner ce plaisir. La lune sera en son plein mardi. S'il n'y a pas de nuages, je préviendrai Yves Gouez, et nous irons faire un tour pas très loin pour ne pas tourmenter grand-mère qui nous verrait déjà la proie d'un sous-marin. Oh oui, Alain, ce sera charmant. » Mais Madame de Pinvalas n'en jugea pas ainsi, quand son petit-fils et Florita parlèrent le lendemain de leur projet. Cependant, le jeune homme ayant promis de n'aller que jusqu'à la petite île de Kungat, elle convint qu'il n'y avait rien à craindre à si courte distance et n'opposa plus d'objection. Dans la matinée du mardi, les fiancés, au cours d'une promenade, allèrent trouver Yves Gouez pour l'avertir de tenir prête la Marie-Antoinette. Le vieux fumait sa pipe devant sa cabane. Il déclara qu'il ferait un temps superbe ce soir et que mademoiselle Florita n'aurait jamais vu un plus beau clair de lune. Il ajouta, en désignant du geste Kéréven, « Les Anglais de là-bas ont aussi ce goût-là. Hier, comme je ne pouvais pas dormir, rapport à une agitation que j'avais, je me suis levé pour prendre un peu l'air. Le cotre quittait justement le ponton. Ils étaient trois dedans. Probablement que le monsieur a un ami chez lui en ce moment. J'ai vu une tête que je ne connaissais pas, avec un bandeau sur un œil. La dame anglaise était toute emmitouflée dans un capuchon noir. Mais à un moment, elle s'est tournée. Ça fait un drôle d'effet, le clair de lune. Elle avait la figure toute changée, blanche comme du lait, elle qui est si jaune. » Et le vieillard se mit à rire. Puis le monsieur au bandeau a fait comme s'il voulait l'embrasser. Mais la dame s'est détournée à ce moment-là. Et monsieur Barwell, qui était au gouvernail, regardait ça sans broncher. J'ai trouvé la chose un peu drôle. « Il faut vous dire, monsieur le marquis. » Alain répliqua avec un sourire. « Vous vous êtes trompé sur le mouvement de cet étranger, mon bon Gouez, ou bien alors c'était un parent. En tout cas, à l'âge de Miss Barwell et avec sa figure, ce n'était pas bien compromettant, avouez-le. » Yves en convint gaiement, quoique, ajouta-t-il, elle eut l'air fameusement jeune sous ce rayon de lune et pas laide du tout. Alain conclut. Ce n'était peut-être pas Miss Barwell, mais une amie ou une parente accompagnée de son mari. Voilà, je crois, la meilleure explication de tout cela. Yves se frappa le front. Tout de même, je suis une vieille bête. C'est en effet bien simple. Et voilà comment on raconte des sottises qui font quelquefois tort aux gens. Et, riant du mécontentement dont témoignait contre lui-même le bon vieillard, les jeunes gens le quittèrent amicalement, après que Florita lui eut renouvelé sa provision de tabac. Et tous deux reprirent le chemin de Runesto. Comme ils passaient le long d'un petit sentier élevé, taillé dans le roc de la côte, une femme, debout derrière les grilles d'une des fenêtres de Kéréven, les aperçut. Tout son beau visage frémi se contracta. En se détournant vers l'intérieur de la pièce, elle appela d'une voix étouffée. « Friedrich, viens, viens les voir !» Reichensfeld se leva s'approcha, vint se placer près de la jeune femme. Madame de Ronchais dit sourdement, le doigt tendu, « Tiens, regarde-les là-bas. » Dans la chaude lumière de cette matinée d'été se détachait nettement la silhouette élégante d'Alain, son beau profil énergique, et la forme souple, harmonieuse de Florita, son délicieux visage, ombragé par la capeline blanche, élevé en ce moment vers l'officier qui lui parlait. Reichensfeld crispa les poings en laissant échapper une imprécation. Quant à Hilda, elle suivait les deux jeunes gens d'un regard chargé de haine. Lorsqu'ils eurent disparu, elle se tourna vers le baron. « Je n'ai pas la patience d'attendre la vengeance, Friedrich. Sait-on jusqu'à quel moment la guerre peut se prolonger? Je veux dès maintenant les séparer. Mais, ma chère Hilda, nous ne pouvons songer encore à faire sauter Runesto et ses habitants. Ce serait rendre inutile cette base de ravitaillement. Je sais, aussi je ne pense pas encore à ce beau coup-là, mais nous pourrions voir à nous emparer de Florita, à la retenir prisonnière pour les faire souffrir tous deux. » Reichensfeld dit vivement, « Ah, c'est une bonne idée. Mais il faudra trouver le moyen de la mettre à exécution de façon prudente, car il ne s'agit pas de compromettre tout notre plan. Naturellement, nous verrons, nous réfléchirons. » Elle prit le bras du baron et revint s'asseoir avec lui près de la table. Ils étaient fiancés depuis quelques jours. En voyant Friedrich très empressé près d'elle, visiblement conquis par sa beauté, par ses habiles coquetteries, Madame de Ronchais avait très vite décidé de tirer tout le parti possible de la situation. Son rôle d'espionne en France se trouvait terminé. Elle était veuve, héritière de la fortune de Maurice, ayant eu soin de faire faire à son mari un testament en sa faveur. La justice française, il est vrai, étant donné le rôle joué par elle, lui en contesterait peut-être plus tard la propriété. Raison de plus pour s'assurer ce remariage riche. Or, le baron de Reichensfeld représentait à ce point de vue un excellent parti. En outre, sa haute situation sociale était faite pour tenter l'ambition de Hilda. Après la guerre, étant donné son intelligence, ses relations avec les plus éminentes personnalités de l'Empire et la considération dont il jouissait près du souverain, il pourrait occuper un poste important. Tout cela valait bien qu'on passât outre sur la mutilation et sur l'œil désormais hors de service. Car aucune pensée d'affection ou de dévouement ne guidait la comtesse en cette circonstance. Elle n'avait jamais aimé personne, en dehors d'Alain, et Reichensfeld lui était indifférent. Seul, l'intérêt la poussait à ce mariage, qui lui semblait devoir réaliser tous ses désirs ambitieux. Or donc, un jour que Friedrich se montrait plus pressant, elle lui signifia nettement qu'elle n'accepterait ses hommages que s'il lui offrait en même temps son nom. Reichensfeld n'hésita guère. Après tout, dans l'état où il était maintenant, il pouvait bien faire le sacrifice d'épouser une femme de rang inférieur au sien, surtout jeune et jolie comme celle-là, et de plus pourvue d'une belle fortune. Puis elle lui plaisait vraiment beaucoup, cette Hilda, très séduisante quand elle le voulait, passablement orgueilleuse et indépendante, physionomie un peu étrange, avec son visage de blonde et ses noirs cheveux au reflet d'ailes de corbeau. Friedrich de Reichensfeld n'aimait pas la banalité, ni une existence trop paisible. Or, il se doutait qu'il serait servi selon ses goûts en devenant l'époux de cette belle personne, très infatuée d'elle-même et peu soucieuse de se plier à la soumission conjugale. Donc, sans longue réflexion, le baron se déclara de fort bonne grâce, tout prêt à passer au doigt de Madame de Ronchais la bague de fiançailles, et à l'épouser dès qu'il pourrait quitter Kerhaven et la France. Ainsi, le vieux logis abritait maintenant deux fiancés, qui se tutoyaient selon l'usage allemand, et s'en allaient faire de sentimentales promenades, dès que la nuit dérobait leurs traits aux regards indiscrets, lesquels auraient pu s'étonner de voir ces étrangers, ou même, certains du moins, reconnaître l'ex-pupille de la marquise. C'est ainsi que, la veille, Yves Gouez les avait aperçus, partant en mer, sur le cotre dirigé par Elmer. Celui-ci avait bien objecté que c'était là une imprudence. Mais Hilda avait levé les épaules en répondant « Il n'y a personne à cette heure-là sur ce point de la côte, presque constamment désert en plein jour. Le vieux Gouez dort comme une souche, je me souviens de lui avoir entendu dire autrefois. Et puis on ne peut trouver singulier que vous ayez des hôtes et que vous les emmeniez en promenade. Le baron ayant lui aussi traité d'enfantillage les hésitations d'Elmer, celui-ci s'était incliné. Or, sans que les nocturnes promeneurs s'en doutassent, il s'en était fallu de peu que le vieux marin reconnût la demoiselle aux cheveux bleus, comme il l'appelait naguère quand elle n'était encore qu'Elsa Hoffel. L'ombre projetée par le capuchon entourant sa tête, la lueur blafarde de la clarté lunaire avait seule pu faire illusion à Gouez, dont la vue était encore excellente. D'autres imprudences, d'ailleurs, inquiétaient Elmer. Ainsi, le baron et madame de Ronchais ne s'avisaient-ils pas de s'asseoir chaque jour, après le déjeuner, devant la porte sous le figuier? Quelqu'un de loin pouvait les apercevoir, les reconnaître. Monsieur de Pinvalas ou mademoiselle de Valserre, par exemple. Mais Hilda répliquait. Il n'y a rien à craindre. D'ici, on voit tout ce qui paraît à une grande distance. Aussitôt qu'une silhouette se dessinerait à l'horizon, nous aurions vite fait de réintégrer le logis. D'ailleurs, le marquis et Florida, ne se doutant pas de notre présence ici, ne nous reconnaîtraient pas si vite. Soyez-en assurés. Le prudent Elmer objectait. Mais s'il s'en doutait, on ne sait jamais. Reichensfeld ripostait. « Oh, laissez-nous tranquilles, mon cher. Nous ne voulons pas rester enfermés toute la journée. Surveillez, tenez-vous au courant, voyez souvent Monsieur de Pinvalas pour vous maintenir en contact avec l'ennemi. C'est votre affaire. Mais la comtesse et moi avons besoin de grand air et d'un peu plus de jours qu'il n'en existe dans ce lugubre logis. » L'autre n'insistait pas. Monsieur le baron de Reichensfeld commandait ici en maître, et Elmer se soumettait sans trop faire de résistance, sachant de quel crédit jouissait en haut lieu cette hôte peu facile. Quant à Spitzfahrer, Elsa l'avait apprivoisé tout aussitôt, et avait réussi à mettre un peu d'huile dans les rouages entre le baron et lui. Mais depuis que la belle comtesse était fiancée à monsieur de Reichensfeld, l'ingénieur devenait sombre comme la nuit, et jetait au noble prussien des coups d'œil qui n'avaient rien de tendre. Telle était la situation ce mardi, jour choisi par Alain et Florita pour leur nocturne promenade en mer. À 9 heures, ils étaient sur le petit ponton où les attendait Yves Gouez. Aussitôt, ils embarquèrent. Le temps était si calme que le vieux marin avait jugé inutile de prendre la voile. Il ramait, et Alain aussi, de son bras unique. Le léger bateau avançait doucement sur la mer, toujours un peu houleuse, argentée par la lune. Les écueils, les roches aux formes étranges avaient plus que jamais, dans cette clarté crépusculaire, l'aspect de monstres assoupis. Une petite île s'étendait, basse et inculte, sous la pâle lumière. C'était vers elle que les deux hommes dirigeaient la barque, car elle formait le but de la courte promenade, ainsi que monsieur de Pinvalas l'avait promis la veille à sa grand-mère. Entre deux avancées rocheuses, la mer formait une petite anse où la houle s'apaisait. On aurait dit un lac tranquille, ce soir tout baigné de lumière bleuâtre. Florita demanda, « Si nous nous arrêtions un peu ici, Alain, nous jouirions ainsi de la vue qui est féerique sous ce clair de lune. Certainement, ma petite Florie, c'est facile. » La barque pénétra dans l'anse et se rangea contre un roc qui étendait son ombre sur elle. De là, on voyait toute une partie de la côte et Kerriven avançant comme une proue dans la mer écumante qui battait violemment l'assise rocheuse. Sous la froide lumière, le sombre promontoire semblait quelque monstrueuse bête de proie guettant sa victime. Florita paraissait n'en pouvoir détacher son regard. Assise près d'Alain, elle appuyait sa tête contre l'épaule du jeune homme, qui effleurait de ses lèvres les cheveux blonds, si doux, trop courts encore pour que Florita pût reprendre sa coiffure habituelle. Dans les boucles légères qu'il formait, elle glissait un ruban de velours noir, et elle avait ainsi l'air d'une fillette, de la plus ravissante fillette du monde, disait Alain. Yves Gouez avait allumé sa pipe et se détournait discrètement pour ne pas gêner monsieur le marquis et mademoiselle Florita. Son vieux cœur était tout réjoui de ce prochain mariage qui allait unir le jeune châtelain dont s'enorgueillissait tout le pays à la fille du commandant de Valserre, jolie et bonne entre toutes, digne héritière des vertus et de la charité de la vieille marquise. Ah, ce sont de beaux amoureux, pour sûr, pensait le vieillard, tout en tirant des bouffées de sa pipe. Et des jeunes gens qui ne passeront pas leur temps à s'amuser, à dépenser leur argent pour le plaisir. Runesto conservera toujours son beau renom avec ces maîtres-là. Les fiancés restaient silencieux. Alain regardait Florita et la jeune fille continuait de regarder Caraven. Elle dit tout à coup à mi-voix « C'est curieux l'effet que me produit maintenant cet endroit. Est-ce le souvenir de la mort de ma pauvre mère? Cependant, jusqu'alors, si j'avais une impression de tristesse en le voyant, il ne s'y mêlait pas cette sorte d'angoisse, d'effroi. Il me semble qu'il y a là un danger terrible, mais lequel, je ne puis me souvenir. Quel danger veux-tu que présente ce vieux logis, habité par ces paisibles Anglais, ma petite Florie? Mais ils ne sont pas Anglais, ils sont... » Elle s'interrompit brusquement et saisit le bras d'Alain. En même temps, son autre main étendue, elle disait d'une voix étouffée « Regarde là, là !» À une assez courte distance de la petite anse, dans la pâle lumière immobile, quelque chose de sombre surgissait des flots, comme un récif qui tout à coup aurait apparu. Mais l'excellente vue d'Alain ne pouvait s'y tromper. Le jeune homme chuchota « Un sous-marin !» Et Yves, en même temps, disait à mi-voix, du même ton de surprise mêlée d'inquiétude « Monsieur Alain, voyez, voyez !»« Oui, français, allemand, que peut-il avoir à faire par ici? Cela me semble bien louche, Yves !» Les deux hommes se regardèrent. L'angoisse les saisissait tout à coup. Ils se souvenaient du navire anglais torpillé dans cette zone peu de temps auparavant. Florita restait immobile, la main crispée au bras d'Alain. Ses yeux, un peu dilatés, suivaient le sous-marin qui s'éloignait en demi-plongée dans la clarté bleuâtre. Il se dirigeait droit sur Caraven. Yves murmura « Où va-t-il? Mais où va-t-il ? » Alain, anxieux, regardait sa fiancée. Elle était très pâle, avec des traits tendus et ses petites lèvres pourprées entr'ouvertes. Il dit tout bas « N'aie pas peur, chérie, il n'y a rien à craindre. C'est évidemment un de nos submersibles, venu ici pour quelque manœuvre. » Elle ne parut pas l'entendre. Ses yeux demeuraient comme rivés à cet objet sombre qui fendait la mer argentée. Maintenant, le sous-marin était proche de Caraven. Il se dirigea vers le flanc sud du promontoire. Puis tout à coup, il s'enfonça, disparut. On ne voyait plus rien d'anormal sur la mer houleuse, dans la douce clarté de la lune. Alors Florita parut sortir d'un songe. Elle tourna vers Alain son visage livide et dit d'une voix étouffée « Je me souviens maintenant de tout, c'est ma tante qui m'a dit. Alain, ils ont là une base de ravitaillement, à Caraven, dans ma maison. Ils ? Qui cela ? Mais les Allemands ? Florie, tu ne rêves pas ? Oh non, non, ma tante m'a tout révélé. Le soi-disant Barwell s'appelle Elmer et est un officier de la marine impériale. Miss Barwell est un ingénieur prussien. Les domestiques sont allemands. Plusieurs années avant la guerre, on a aménagé une partie des souterrains. On y a préparé des approvisionnements de tout genre, en vue d'une attaque sur nos côtes. Celle-ci n'ayant pu avoir lieu, les ennemis ont du moins utilisé ce point comme base de sous-marins et refuge à l'occasion. Ils y peuvent réparer les avaries, se ravitailler. Ma tante m'a aussi parlé d'une grotte sous-marine, où il est loisible à un submersible de se dérober aux poursuites. » Yves Gouez laissa échapper un juron. « Je savais bien, moi, qu'elle existait, la grotte. Les histoires des anciens, c'est pas toujours des blagues. Mais tonnerre de sort, si c'est vrai que ces faillis chiens-là l'ont découverte !» Alain saisit la main de Florita et la serra avec force. « Serait-ce possible, Florie? Ta tante avait bien tout son bon sens quand elle t'a dit cela. Oh oui, c'est alors aussi qu'elle m'a révélé le rôle d'espion joué par son mari, la véritable personnalité d'Elsa, et qu'elle m'a averti de fuir pour échapper au danger que présentait pour moi la complicité d'Otto Mühlbach et de Reichensfeld. Oui, maintenant je me souviens de tout. » Le voile s'est écarté subitement. Caraven est un repère de pirates allemands. Caraven, la maison de nos ancêtres, Alain, abrite les ennemis de notre patrie. le jeune homme dit sourdement. « Ah, c'est abominable !» Avec une sorte de rugissement, Yves Gouaise se redressa si brusquement que la barque pencha. « Et c'est moi qui ai montré à ce coquin de Prussien qui faisait l'anglais toutes les passes de par-ici, tellement qu'il les connaît aussi bien que moi. Il s'intéressait à toutes les choses de la mer, qu'il disait, parce qu'il avait été dans la marine de commerce. Ah, le vaurien ! Que je le tienne donc un peu sous ma main, et il verra si je ne lui fais pas rentrer ses mensonges dans la gorge. » Alain dit d'une voix frémissante. « Vous n'êtes pas le seul à avoir été trompé, mon pauvre Gouaise. Cet homme, je lui ai serré la main, je l'ai reçu chez moi. Mais nous aurons notre revanche. Les bandits vont être pris au piège sans tarder. Demain, je partirai par le premier train pour Brest, afin de prévenir qui de droit. Maintenant, retournons, et timidement, pour ne pas attirer l'attention. » Yves dit entre ses dents. « Oui, pourvu que ce sale poisson ne vienne pas montrer son nez dans ces parages. » C'était leur inquiétude à tous trois. Ce court trajet leur parut interminable. Alain tenait serré contre lui sa fiancée, calme en apparence, car elle savait dominer ses angoisses. Leurs regards fouillaient la mer, craignant d'y voir apparaître la bête sournoise à laquelle ne coûterait pas un crime de plus. Mais non, rien ne vint troubler la sérénité des flots relativement calmes, ce soir, dans cette belle nuit chaude et tranquille. Les promeneurs débarquèrent sans encombre, en laissant échapper un soupir de soulagement. Yves déclara « Je vais rester là pour surveiller. Peut-être qu'ils feront d'autres manigances cette nuit. Restez, mon brave Gouaise. Il n'y a jamais trop de preuves pour convaincre une administration, car je crains qu'on ne traite mon histoire de conte à dormir debout. Ah, bien par exemple, ils sont pourtant assez rusés pour avoir préparé ça, les Boches, et sûr que c'est un bien bon endroit pour des manœuvres comme ça, surtout avec les souterrains. » Florita demanda « Crois-tu maintenant, Alain, à ce que je t'ai dit, le jour où cette Elmer est venue visiter la chapelle ? Qu'il cherchait l'autre issue ? Oui, c'est probable, mais cela n'avait aucune importance. La légende raconte qu'un de mes ancêtres fit murer cette entrée. Il n'en est rien. Un bloc de granit la ferme et ne peut se déplacer qu'en agissant sur un point dont il faut avoir le secret. Or, seul je possède celui-ci. Et l'Allemand, eût-il réussi à pénétrer dans le caveau funéraire des veines le roux, aurait été fort embarrassé pour découvrir cette fameuse entrée. Mais je conçois que ceci l'inquiète. De fait, on pourrait opérer une descente simultanée, par Kerhéven et par Runesto, si l'on savait que le passage ne fut pas obstrué dans cette seconde voie. Malheureusement, nous l'ignorons. Toutefois, demain, en revenant de Brest, j'irai faire une reconnaissance par là. Tu n'as jamais essayé d'ouvrir cette issue ? Mais si, un jour, il y a une dizaine d'années de cela, grand-mère venait de me remettre l'enveloppe cachetée où mon père avait enfermé le plan du vieux Runesto, sur lequel se trouve indiqué le secret. Je n'ai rien eu de plus pressé que d'aller faire connaissance avec ce mystère. Mais une fois l'ouverture démasquée, ce fut la déception, car je me trouvais en présence d'éboulis qui ne me permettaient pas d'avancer. J'aurais pu faire dégager ce passage. Mais Kerhéven ne m'appartenant pas, je jugeais plus convenable de ne pas rétablir la communication, du moins jusqu'à ta majorité, Florie. Puis les travaux dans de si anciennes galeries pouvaient présenter des dangers. À quoi bon y opposer quelqu'un pour un motif de simple curiosité ? Maintenant, c'est autre chose. Mais passer par là présenterait peut-être malgré tout de trop grandes difficultés. Enfin, nous verrons. Demain, j'irai trouver l'amiral X. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je crains de me heurter à quelque scepticisme qui retardera l'action nécessaire. Et ces coquins peuvent se méfier, être prévenus même, qui sait, avec leurs innombrables espions. Florita dit en frissonnant un peu. Et cet Otto Mulbar qui leur a livré ce logis en connaissance de cause, et ma tante le savait. Oh, mon pauvre père a dû tressaillir dans sa tombe. Et toi, cher Alain, toi n'as-tu pas horreur que je sois la nièce de cet homme ? Ma pauvre petite chérie, ne te fais pas de tourments à ce sujet. Le même sang, heureusement, ne coule pas dans tes veines. Et je ne te rends pas non plus responsable de la faiblesse de ta tante. Va, ma vaillante petite Française. Allons, tu vas tâcher de te reposer, n'est-ce pas ? Demain, à mon retour, nous causerons encore de tout cela. mais je crois préférable de n'en pas parler à ma grand-mère pour le moment. Je dirai simplement que je vais voir à Brest notre cousin de Barcueil. Oh, certes, pauvre bonne maman, cela l'inquiéterait, l'agiterait, et nous avons aussi le temps de le dire à Armel. Eh bien, c'est convenu, nous garderons momentanément le silence. Et j'espère que tout se passera sans encombre, que ces vilains oiseaux de proie seront pris au gîte dans peu de temps.